Bonjour. Passant largement sous les radars des moins de 30 ans, tout un écosystème d'extrême droite s'est développé sur YouTube. Alors, il déjoue la censure par l'allusion et le sous-entendu, il recrute des abonnés par le sarcasme et par l'humour, et il consolide ses positions par tout un système de recommandations et d'invitations, système très sophistiqué. Nous allons essayer de mieux connaître aujourd'hui cet écosystème avec deux invités, Paul Conge. Vous êtes journaliste à Marianne, vous êtes auteur d'un livre « Les grands remplacés », le voici, livre dans lequel, alors livre qui est déjà un peu ancien, parce que tout va très vite dans ce domaine-là, il a déjà un an, mais on apprend dans votre livre beaucoup de choses très intéressantes sur Papacito, dont nous allons beaucoup parler dans cette émission. Lucie Delaporte, vous êtes journaliste à Mediapart, chargée à la fois cet écosystème souterrain de l'extrême droite de YouTube et aussi de l'extrême droite institutionnelle. En ce moment, vous êtes aussi sur les régionales, par exemple. C'est dire si vous avez du boulot. D'ailleurs, j'étais assez surpris de voir que vous étiez si peu à Mediapart sur l'extrême droite.
Après, j'ai des confrères, notamment Marine Turchi et Mathieu Su, qui travaillent sur l'ultra-droite radicale. Mais c'est vrai que oui, c'est un domaine tellement vaste que
vous avez demandé du renfort sur le plateau.
Bien,
ils nous regardent à Mediapart, on va passer le message. Et vous êtes notamment l'auteur, il y a quelques mois, d'un papier qui s'appelait « Le néo-fascisme débonnaire » et qui était justement consacré à toute cette galaxie en ligne. Maurice nous fera un petit point dans cette émission sur un autre YouTuber ressortissant de cette galaxie dont on parle moins, Code Renault. On apprendra plein de trucs sur les armes. Mais je voudrais d'abord donc expliquer pourquoi nous consacrons aujourd'hui cette émission à ce sujet. On en a déjà parlé sur le site. Je parlais tout à l'heure de Papacito. Papacito, ce YouTuber, a mis en ligne il y a quelque temps une vidéo qui a connu un certain retentissement. Donc on le voyait, Papacito, c'est le monsieur à droite avec le béret et les lunettes, à côté de Code Renault, justement, tous les deux en battle dress. Et le propos de cette vidéo était de tester la solidité du gauchiste. Donc le gauchiste, c'est cette... ce mannequin en t-shirt orange, Media Cuck Dimi, je suis communiste. Et il s'agissait de tester, on peut rester juste sur l'image une seconde, il s'agissait de savoir si le gauchiste avait une capacité de résistance au cas où il subirait une agression. Alors, ce n'était pas très clair de savoir une agression de la part de qui, si c'était une agression des islamistes ou une agression, justement, des honnêtes Français à la Papacito qui sont exaspérés par les islamistes. Toujours est-il que ça se terminait mal pour le mannequin. Voilà, alors là-dessus, plainte de Jean-Luc Mélenchon contre cette vidéo, parce qu'il était dit plus tôt dans la vidéo que c'était le...
sympathisants de la France Insoumise
carrément les sympathisants
de la France. Mélenchonistes.
Oui, les Mélenchonistes, les gauchistes, les communistes, les Mélenchonistes, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut commencer d'ailleurs tout de suite le décryptage par le t-shirt? Parce que je suis le t-shirt du mannequin, parce que je suis communiste. Le t-shirt du mannequin, voilà, je suis communiste, ça je comprends, mais Media Cuck Dimi. Qui nous décrypte Media Cuck Dimi?
C'est effectivement les références un peu qu'on ne connaît que si on traîne sur Internet et qu'on a 20, 25 ans, 30 ans. Cuck, ça veut dire en gros quelqu'un qui est cocu. Dimi, c'est une référence à la dimitude, c'est-à-dire en gros une forme d'espèce de soumission à l'islam, cette idée qu'on est extrêmement tolérant vis-à-vis de l'islam, voire de l'islamisme. Et bon, je suis communiste. Le communisme étant communiste incarnerait un peu tout ça, à la fois cette pensée politique et une espèce de mode de vie de gauche, bobo, citadin, vegan.
D'accord. C'est une variante d'islamo-gauchiste, je
crois qu'on peut
le dire. C'est moins clair.
C'est moins clair, c'est plus crypté.
C'est plus crypté. Alors vous, tu connaissez très bien tout ça, ils ont fabriqué fabriquer le t-shirt pour l'occasion ou le t-shirt est en vente dans leur boutique? Ils ont des produits dérivés?
Alors, ils ont des produits dérivés, je ne sais pas si ce t-shirt précisément-là y est disponible. Il n'est pas impossible qu'il l'ait imprimé spécialement pour l'occasion, mais effectivement, on voit beaucoup de t-shirts en fait, fleurir dans cette mouvance, disant par exemple Bab Tout Solide ou ces choses-là, Bab Tout Solide, c'est une référence en gros pour expliquer que ils sont blancs, mais à la fois voilà, musclés, entraînés et prêts, s'il le faut, à faire face à une agression.
Bab Tout Solide.
Bab Tout, c'est comme ça qu'appellent dans le Sahel les Africains, les Blancs.
D'accord.
Qui est le verlan de Toubab. Qui veut dire blanc, voilà.
Exactement. Alors, je parlais des moins de 30 ans. Bon, vous avez moins de 30 ans. Lucie, vous avez peut-être un tout petit peu plus. J'imagine que vous avez dû faire une grosse mise à jour, non, pour le...
Tout à fait. Non, moi, j'ai découvert vraiment cette sphère vraiment que je ne connaissais absolument pas. Et je l'ai découvert par un jeune militant du Rassemblement national qui avait 25 ans et qui m'a raconté son parcours de politisation. Et c'est effectivement par ces vidéos, d'abord par un amour des jeux vidéo et ensuite en découvrant tous ces youtubeurs qu'il est progressivement allé vers le Rassemblement national. Donc moi, j'ai découvert toute cette sphère que j'ignorais totalement, alors que je regarde quand même l'extrême droite depuis un moment. Donc ça m'a fait un petit...
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une séparation relativement étanche entre toute cette galaxie souterraine et l'extrême droite institutionnelle que vous suivez aussi ?
Alors, ça dépend des figures, parce que c'est quand même... Julien Rochedy, clairement, est un ancien cadre du Front National de la Jeunesse, et c'est un de ces youtubeurs très, très populaires dans la fachosphère. Donc là, le lien est direct.
On le voit, on peut le présenter en deux mots.
Voilà, donc lui, Julien Rochedy, il a été président du FNJ, alors je crois que jusqu'en 2014, voilà, c'est ça. Et finalement, d'ailleurs, il l'explique assez bien. Il s'est dit que le combat le plus important et peut-être le plus influent plutôt que d'aller en gros s'embêter à faire des marchés, distribuer des tracts pour des élections auxquelles on gagne jamais parce qu'en fait il y a des coalitions en face. Il s'est dit voilà, je vais faire un combat métapolitique. Il se trouve que c'est aussi le moment où il y avait Florian Philippot sur lequel il n'était pas exactement sur la même ligne, ce qui est considéré comme un peu trop de gauche pour lui. Lui, c'est vraiment clairement un identitaire.
Et alors, quel est son créneau à lui sur YouTube?
Alors, si vous pouvez le définir, il est un peu, effectivement, sur cette question d'art de vivre de droite. Il se voudrait aussi un peu intellectuel. C'est quelqu'un qui a écrit un livre sur Nietzsche, donc qui essaye de... Voilà, à la fois prôner les valeurs virilistes, il faut redonner aux hommes leur fierté d'être des hommes, des vrais hommes.
C'est ça l'art de vivre de droite.
Voilà, c'est ça. Bah oui, parce que
en tout cas pour les hommes, pour les hommes de droite.
Voilà.
Mais c'est vrai que Julien Rochedy se vit comme un intellectuel de droite. Il a toujours trouvé dommage qu'au sein du Front National, quand il était cadre, il ne puisse pas en fait faire ce travail de pensée. Lui, maintenant, son créneau, c'est effectivement d'être sur de camper un peu le youtubeur, l'influenceur politique viriliste qui va un peu distiller cette vision essentialiste de l'homme, essentialiste de la femme et renouer avec les valeurs traditionnelles de droiture, de bravoure, tout en écrivant des livres.
C'est intéressant. Mais alors, à part lui, il y a d'autres passerelles
Sinon, oui. Alors, si on peut généraliser, c'est toujours compliqué parce que quand on a affaire à une nébuleuse comme ça qui est assez disparate, ils ont quand même plutôt tous une vraie défiance à l'égard des partis politiques.
Y compris le RN.
Alors, soit pour certains parce qu'il est considéré comme trop mou, comme ayant finalement accepté le jeu des institutions, ayant adopté un discours républicain, qui évidemment ne leur convient pas du tout. Et puis, ils sont, c'est vraiment pas leur monde, quoi. Vraiment, le monde politique, c'est un monde de vieux. Ils sont distants. Après, il y a aussi ceux qui ont plutôt aussi la conscience qu'ils vont aiguillonner le Rassemblement national en... le poussant très fort sur les questions identitaires. Donc c'est aussi un écosystème où les choses se répondent.
C'était le créneau d'ailleurs de génération identitaire au départ, qui se voyait un peu comme l'aiguillon de la droite et de l'extrême droite.
D'accord. Alors, Papacito, puisqu'il était question de lui cette semaine, vous pouvez nous dire en une minute, il vient d'où? Quel est son itinéraire?
Papacito, c'est un Toulousain qui, à l'origine, s'est fait connaître sur Internet en créant un blog haineux qui s'appelait FDP de la mode, dans lequel il s'amusait à coups de chronique à tacler, en gros, tout ce qui représentait à ses yeux la bourgeoisie de gauche.
Alors, FDP, pour nos vieux abonnés, fils de pute.
Oui, fils de pute. Je ne voulais pas dire ça à l'antenne.
On peut tout dire. Ils ont tout entendu, nos abonnés. Fils de pute de la mode. Ouais.
Donc, c'était un blog haineux, comme Internet, on l'a connu au début des années 2010. Il a eu sa petite notoriété. C'était un blog vraiment très trash, très, très vulgaire, déjà très anti-féministe, très anti-multiculturalisme, anti-mode de vie citadin de gauche, parce qu'il faut savoir que Papacito, lui, il encense le terroir, l'armée, le monde paysan, il vient vraiment de cet univers-là. Après, il a commencé effectivement à faire des vidéos YouTube, à écrire des livres aux éditions Ring, et en quelques temps, il est devenu, disons quelques années, un influenceur politique quand même assez influent dans sa sphère. Il incarne...
Alors, on voit une couverture de livre, pardonnez-moi, on voit une couverture de livre. Donc j'imagine qu'il a coécrit avec Marceau, qui est un dessinateur aussi qui appartient à cette mouvance. Qui est censé symboliser ce personnage, là, en couverture ?
Là, ce personnage en couverture, c'est censé, j'imagine, incarner, quelqu'un de gauche, de clownesque. Alors, j'imagine...
Un clown de gauche, ok. Bon, pas très clair.
Ouais. J'avoue que c'est pas très clair, bon, pas facile à décrypter.
Il commence par faire un blog fils de pute de la mode ensuite.
Ouais. Et ensuite, il s'investit plus sur la sphère directement des réseaux sociaux. Il va essayer à coup de punchline, d'humour très lol d'internet, il va essayer de se fidéliser une communauté. C'est aussi un peu plus structuré politiquement. Donc sa grande idée, c'est quand même de faire infuser ses idées catholiques, royalistes et plus généralement traditionnalistes d'extrême droite dans la sphère des réseaux sociaux. Et ce qu'il a voulu faire, c'est créer, il le dit à de multiples occasions, un contre-Canal+. C'est-à-dire que lui, il se voit comme un avant-poste de la bataille culturelle d'extrême droite d'aujourd'hui. Il veut vraiment agir sur le plan de la culture, sur le plan des idées et rendre déringardisées, quelque part, les idées politiques d'extrême droite. Et je pense qu'il fait ce travail-là très bien, parce qu'il a effectivement un grand talent formel. Il a une faculté à... Il a beaucoup de réparties, une répartie cinglante, il peut vous enchaîner 12 gags à la minute, et il est très bon dans cet art oratoire-là, et il a, grâce à ça, pu toucher une énorme communauté de jeunes gens.
Alors, je tiens à dire, donc à la suite de la vidéo dont on a vu un extrait, là, une plainte a été déposée, notamment par la France Insoumise. Il a été entendu par la police cette semaine, Papacito, il a reconnu une maladresse dans le... et effectivement, le message n'était pas très clair. Alors, cela dit, il y a un deuxième personnage, un troisième avec le mannequin dans cette vidéo. Maurice, et toi, tu t'es intéressé à cet autre personnage. C'est celui avec le gilet pare-balles dans l'image qu'on vient de voir à l'instant. Et c'est lui, là.
Et en effet, il s'agit de Code Reno et je me suis plongé la semaine dernière dans sa chaîne YouTube aux 300 000 abonnés et à peu près centaine de vidéos. Code Reno, c'est un ancien militaire qui a notamment servi en Afghanistan. Au programme de ses vidéos, donc, des informations sur les armes à feu dans lesquelles les vidéastes décrivent leur fonctionnement, l'histoire de différents modèles, ça va d'armes de poing à des fusils d'assaut très sophistiqués, et en passant par la description des munitions, comme on peut le voir dans ce montage.
C'est un pistolet mitrailleur à l'aspect très moderne, avec une plateforme bullpup. Bullpup, ça signifie que le système de culasse se trouve à l'arrière de l'arme, ce qui permet d'avoir un canon long tout en gardant une taille totale très réduite. Il est totalement ambidextre. La plupart des fusils bullpup, pour passer d'un droitier en gaucher, un démontage est nécessaire. Pour le P90, rien à branler. Le chargeur est au-dessus et les munitions sont évacuées par le bas. Pour le panel de munitions, en tant que civil, j'ai évidemment beaucoup moins de choix que les militaires. Pas de balles explosives, pas de sacs de plomb non létales, mais surtout, pas de cartouches de dégondage.
Vas-y.
Déjà, c'est un fusil de la marque Mossberg, chambré en 223 Remington, la même munition que l'armée française. Mossberg est une gamme que j'aime bien en termes de qualité-prix. Elle a été vendue avec une optique que j'ai pas utilisée, quelques accessoires inutiles et 500 munitions. Ce kit m'a coûté 1 200 €. Évidemment, j'ai profité d'une très bonne promotion et en plus de ça, mon armurier m'a fait un prix dessus. Encore merci à lui d'ailleurs.
Il est sponsorisé ou pas? On sait?
Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il fait de la pub un petit peu pour Terre de France, évidemment, comme Papacito.
Terre de France.
Qui est. Alors, je pense que tes invités seront encore mieux que moi, ce qu'est Terre de France. Mais donc, qui est une marque de produits fabriqués en France, estampillés Made in France, etc.
On ne sait pas s'il est sponsorisé par les fabricants d'armes.
Non, je ne le sais pas. Par contre, ce que je sais, donc, comme tu vois, c'est un spécialiste très pointu. Et c'est ce même rôle de spécialiste des armes à feu qu'il tient dans sa vidéo avec Papacito, où il explique notamment dans la vidéo pourquoi est-ce qu'il faut utiliser du calibre 12, parce que le calibre 12, c'est le calibre le plus utilisé par les particuliers ayant des armes à feu, notamment quand on chasse. Et il explique également comment se procurer une arme à feu à 150 € en ayant simplement un permis de chasse, voire comment récupérer des armes à poudre noire, qui sont des armes qu'on peut récupérer seulement avec une carte d'identité, sans avoir besoin de permis quelconque. Mais comme tout youtubeur, Code Reno, il ne manque pas non plus d'humour, notamment quand il s'agit de s'en prendre à une de ses cibles préférées qui sont eh bien, les gauchistes. Il s'en moque assez régulièrement en incrustant à l'image, comme on va pouvoir le voir, des petits poneys roses pour souligner à la fois leur bêtise et leur naïveté.
Ah, ça, c'est le gauchiste, selon
Ça, c'est gauchiste. En général, d'accord. Il prend une petite voix très fluette pour imiter d'accord. Les gauchistes en même temps, pour expliquer.
Il y a donc plusieurs représentations du gauchiste, hein, avec celle qu'on a vue avant.
Oui, voilà. Au départ, il voulait faire ça avec des bisounours et finalement, il s'est dit qu'il ne trouvait pas de bisounours, donc il a pris des petits poneys. Un autre de ses gags récurrents, c'est aussi de comparer ces fameux gauchistes à des collabos. Pour ça, Code Reno, il met en scène très souvent des faux JT dans ses vidéos, voire même des pastilles exprès pour ça, des faux JT de chaînes d'infos en continu dans lesquelles il singe des journalistes de gauche qui minimisent des crimes commis par ce qu'il appelle des chances pour la France, c'est-à-dire des enfants issus de l'immigration.
D'accord, parce que jamais ils ne prononcent les mots enfants issus de l'immigration. C'est-à-dire ils sont toujours désignés par sous-entendu.
Voilà, voilà. Chance pour la France, dans certaines vidéos, c'est chance pour l'univers. Donc c'est ce qui est pour le coup une locution qui est très, très prisée sur Internet dans les cercles d'extrême droite. Et alors, Code Reno, qui caractérise principalement de gauchistes, ce sont pour lui les gens qui sont contre le port légal des armes à feu en France. Et donc il se moque d'eux pour ça. Et en revanche, lui, il ne se défend quasiment plus de dire qu'il n'est pas un facho, puisqu'il se présente lui-même comme un facho dans ses vidéos, toujours avec ce côté où on ne sait pas si c'est du la roue du cochon, si j'ose dire. Et on ne sait pas si c'est sous couvert d'humour, là encore, mais peut-être qu'on manque de second degré.
Alors, le jonglage entre le premier et le second degré, l'humour, les sous-entendus, ça va être le sujet de cette émission dont on va continuer de parler. Merci Maurice, tu peux retourner regarder des vidéos YouTube, il n'y a pas de problème. Mais attention, c'est à consommer avec modération. Alors, Maurice vient de le dire, plusieurs armes rhétoriques sont déployées par ces youtubeurs d'extrême droite. L'humour, on va parler de leur humour, parce que c'est effectivement très, très intéressant. Le sous-entendu aussi. Puisque, effectivement, on ne peut pas tout dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube est quand même assez vigilante sur un certain nombre de contenus, et notamment, on l'a dit d'ailleurs dans Arrêt sur image, évacue des contenus racistes. Par exemple, la chaîne Sud Radio a eu des problèmes avec YouTube. Donc, il faut en parler de manière à ce que les initiés comprennent, mais que la censure de YouTube ne comprenne pas. Et alors, je voudrais, par exemple, donner un point très précis. On a remarqué que Papacito aimait beaucoup parler de sanglier.
Je vous propose, avec mon ami Code Reno, de vous présenter quelques armes auxquelles vous pourrez accéder avec un simple permis de chasser, ce qui vous permettra de neutraliser un sanglier qui rentrerait dans votre salon par inadvertance. Bien sûr, comme toute personne qui souhaite commettre des crimes de guerre sur sanglier, vous avez l'incontournable couteau, quoi. Le buck qui a fait un petit peu sa réputation à l'époque de quand il fallait pacifier l'Amérique et que Custer et sa division de cavalerie étaient en train de montrer aux Indiens les bienfaits de la civilisation occidentale. Souvent, quand il y a une invasion comme ça de sangliers, c'est souvent les dernières semaines de votre vie, parce qu'il ne faut pas croire, la guerre, ça tue des gens, et en fait, il faut être prêt à crever.
Alors, dans un article, Libération a insinué l'idée que autour des 10 sangliers se trouvaient des sous-entendus, mais sans aller plus loin. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez réussi à savoir quels étaient les sous-entendus ? Est-ce que ces sangliers sont des sangliers ou est-ce que ça désigne autre chose ?
Il y a peu de chances qu'ils parlent de vrais sangliers. On peut émettre l'hypothèse qu'en parlant de sangliers, en fait, ils parlent plutôt d'immigrés extra-européens, donc en gros de délinquants, de racailles, suivant les termes qu'ils utilisent. Mais je pense que c'est une forme de métaphore pour désigner effectivement ces gens-là. Ouais.
On pense, mais comment être sûr ? En fait, on est au cœur du sujet.
Mais c'est toute l'ambiguïté. Ouais. Hein.
Ouais. En fait, c'est là où c'est intéressant de voir que c'est une contre-culture assez complète. C'est qu'une fois qu'on tombe dans cette sphère-là, on comprend très bien leur sous-entendu. Parce que l'animalisation des migrants, c'est une constante. Donc, il dit sanglier, franchement, nous, je pense qu'on a... Évidemment, on sait très bien de qui il parle. Et ceux qui le regardent régulièrement savent très bien de qui il parle.
Mais comment le prouver ?
Ben, c'est là où c'est très malin, c'est qu'en justice, évidemment, ça va être très difficilement attaquable. On peut dire, ben, je suis partie à la chasse au sanglier, il ricane, son public comprend très bien de qui il parle, mais évidemment, c'est très difficilement attaquable. Et c'est pour ça, et d'ailleurs, c'est effectivement ce qui fait qu'il ne cesse de jongler avec les sous-entendus, les périphrases, sur les féministes, c'est pareil. Il y a toute une façon, il y a les social justice warriors aussi qui désignent ces gauchistes. Voilà, c'est toute une façon à chaque fois de contourner pour, je pense, ne pas être attaquable. Et puis aussi avec ce côté ludique, puisque c'est quand même plus marrant de parler de la chasse aux sangliers en ricanant que de la chasse aux migrants.
Et on est au cœur vraiment de la méthode Papacito. Je peux comprendre bien sa manière de s'adresser à son public, c'est qu'il est toujours comme ça dans l'excès, le ricanement, l'humour noir. Et en fait, c'est vraiment une méthode qu'il a déployée, qu'il a presque conceptualisée, on pourrait dire, pour faire passer des messages politiques. En fait, pour lui, l'humour, le sarcasme, c'est un espèce de cheval de Troie pour faire passer ses idées.
Et ils le disent, hein. Ils le disent sans difficulté. Et par exemple, alors un certain nombre d'entre eux étaient réunis il y a quelque temps dans une émission de TV Liberté où cette méthode a été théorisée et exposée.
Aujourd'hui, la société qu'il y a à déconstruire, c'est leur société, celle d'après mai 68. Donc aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans l'impertinence. Mais pour contrer la censure de YouTube qui est très active, et TVL en a fait les frais encore récemment, je pense qu'il faut jouer avec les mots, jouer avec les sous-entendus, avec l'ironie. Et c'est ce qui rend notre humour encore plus drôle pour les gens qui nous suivent, c'est d'essayer de lire entre les lignes, et c'est ça qui leur permet de décoder, de dire des choses sans les dire, et ça embête à la fois le système, et ça permet de passer des messages. Moi, je pense que c'est comme ça.
Il faut être fin, et je pense qu'en plus, ça nous sert parce que c'est plus digeste. En fait, si vous attaquez de front et que vous faites quelque chose de purement politique, non seulement vous exposez à la censure, mais en plus, le contenu que vous proposez, il n'est pas... Il y a des gens qui vont être imperméables à ce contenu, parce qu'il va être trop frontal, trop politique. Alors il y a des gens dont c'est le métier, ou dont c'est l'œuvre, en tout cas, de faire du très politique, et je pense que nous, on est la phase avant, on peut, par un contenu qui est plus fin, plus évasif, amener ces gens vers du contenu politique très frontal, et donc nous, en fait, ça nous sert finalement, dans la finesse, on permet de passer entre la censure et en même temps d'aller toucher un autre public.
Papacito, même point de vue ?
Oui, et surtout, ça force à être bon, c'est-à-dire que quand il faut trouver des subterfuges pour ne pas dire certains mots, à partir du moment où on crée un tabou, du coup, on a envie de briser ces tabous-là, donc c'est beaucoup plus facile d'être... en fait, quand on est dans la position du censeur, c'est très difficile d'être drôle, en fait, parce qu'on est dans la position de celui qui met fin à la récré. Et nous, on est les enfants qui font que la récré va continuer un petit peu plus parce qu'on met du temps à se mettre dans le rang.
Voilà, donc les clés sont sur la table. On ne peut pas les soupçonner de dissimulation. Je veux dire, tout ça est théorisé. Et pour terminer avec les sangliers, en fait, dans Mediapart, qui rendait compte le 25 mai dernier d'un rapport du parquet général de Paris, puisque le parquet général de Paris s'est intéressé à cette galaxie, il était dit que le parquet général avait retrouvé une vidéo de Papacito dans laquelle les sangliers désignaient explicitement des personnes en situation irrégulière menant des actions terroristes sur notre sol. Donc si on cherche bien, on doit pouvoir... trouver les clés de traduction.
Que, en vérité, Papacito n'est pas toujours aussi prudent que ce qu'il fait sur YouTube. Quand il fait des interviews un peu plus sérieuses, par exemple à Boulevard Voltaire, là, il ne va pas mettre de gants, parce qu'il s'adresse aussi à un public qui s'est converti à cette thèse-là. Et il va parler effectivement de collabos, il va parler d'envahisseurs, il va parler d'état profond, il va prendre en fait toute la rhétorique habituelle de l'extrême droite un peu alternative qui existe sur les réseaux sociaux.
Donc les sangliers, c'est pour YouTube, en fait. C'est uniquement pour YouTube.
C'est pour viser un public beaucoup plus large. C'est parce qu'en fait, eux, ils visent pas à s'adresser à un public d'extrême droite, en fait. Alors évidemment, il y a sa communauté qui veut fidéliser, mais il veut surtout toucher des gens éventuellement un peu plus de gauche, mais qui pourra ramener dans son camp.
Alors, on vient de voir parmi les participants à cette émission de la chaîne d'extrême droite TV Liberté, Baptiste Marchais, ce youtubeur s'appelle Baptiste Marchais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors on le voit d'ailleurs dans cette émission, ils n'arrêtent pas de s'inviter les uns les autres. Ils ont toute une série de lieux, alors que ce soit leur chaîne YouTube ou des chaînes de médias, dans lesquelles ils pratiquent les invitations croisées. Alors, un petit exemple, un montage d'Adèle Bello sur justement le système d'invitation et l'univers de Baptiste Marchais.
Salut.
Salut.
Bonjour.
Salut les gars, aujourd'hui on est chez Vino Nancy, que vous connaissez déjà, avec mon pote Julien Rochdy. On est chez Adrien pour faire une petite dégustation de whisky. Salut les gars, aujourd'hui on est avec le frérot Raptor,
Salut, gars. On est près de Bergerac. On est chez Jordan, qui est artisan coutelier. Et bah, en gros, on a décidé, ça fait quelque temps qu'on se connaît tous les deux, que j'adore ton boulot.
C'est ça.
Et en fait, on t'a décidé un petit peu de nous initier à la forge, quoi. Ouais.
Oh, c'est beau.
Là, aujourd'hui, je t'ai fait un menu vraiment spécial repas de chasse.
D'accord.
Et là, l'entrée, c'est que du sanglier.
Voilà, donc l'univers du whisky, du tir, de la coutellerie, de la vénerie, Bigard. Alors déjà, on a parlé plusieurs fois depuis le début de cette émission du côté viriliste, masculiniste, anti-féministe. Là, on est dans cet univers-là déjà.
Ouais, déjà, on voit bien qu'ils exposent aussi leur musculature parce que.
Bah, c'est un ancien champion de France de.
Développé couché.
C'est comment le développé couché?
Je sais pas.
En tant que bon baba de gauche, j'ai aucune idée, si vous voulez, dans quoi consiste exactement le développé couché. J'imagine qu'il s'agit de se coucher et de soulever des haltères.
Ils sont bien que c'est ça.
Vous n'êtes pas sûr, il faut faire l'enquête. Hein.
Jamais pratiqué personnellement, en vérité.
Ça n'empêche pas. Voilà. Et donc, des invitations croisées, c'est-à-dire ils n'arrêtent pas de s'inviter les uns les autres.
Oui, ce que je trouve intéressant, parce que moi, j'avais observé ça dans les petits groupuscules plutôt du côté politique, identitaire, c'est qu'ils arrivent, c'est vraiment, ils ont cette tradition-là, à être à la fois très peu nombreux, à se démultiplier avec des affiliations multiples, ils créent des clubs, etc. Et là, je retrouve ça exactement chez ces youtubeurs, c'est-à-dire que quand on essaye de les comptabiliser, ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais effectivement, ils se vivent comme un écosystème avec des renvois d'ascenseurs et ils ont parfois les mêmes sponsors, etc. Je pense qu'il faudra aussi, peut-être qu'on en parlera par la suite, mais voir comment ça SM vers certains médias comme Valeurs Actuelles et leur chaîne VA+. Mais vraiment, d'ailleurs, ils l'avaient théorisé, je crois, dans l'extrait précédent. C'est vraiment constituer un écosystème cohérent. Et essayer, alors qu'ils sont très peu nombreux, du coup de se donner des échos l'un l'autre, de prendre les followers les uns des autres, etc. Et voilà, donc se rendre plus fort.
Et aussi faire émerger en fait des nouveaux youtubeurs, parce que si on s'intéresse à des youtubeurs un peu moins connus, je pense à youtubeur El Ryan par exemple, lui a été mis en avant par un autre youtubeur d'extrême droite qui s'appelle Cro-Blanc, qui est un rappeur identitaire. Vous allez voir la chaîne de Daniel Conversano, qui est un autre auteur radical d'extrême droite. Lui, il a fait émerger, enfin, il a tenté de faire émerger une jeune TikTokeuse qui se prénomme Estelle Redpill, hein, qui a un peu défrayé la chronique il y a quelque temps. Et justement, leur but, c'est aussi vraiment de faire émerger des figures qui pourront ensuite rallier à leur camp et à leur écosystème, effectivement. Ouais.
Ce qui est très intelligent, hein. Et j'ai envie de dire, sans faire de mauvais esprits, si les youtubeurs de gauche avaient le même sens du partage, de la convivialité et la même générosité. Peut-être que la gauche se porterait mieux sur YouTube.
Ils sont plus collectivistes que la gauche, pratiquement.
C'est quand même un paradoxe. Mais alors, bon, en même temps, c'est compliqué parce qu'il aime le whisky. Il y a beaucoup de gens qui aiment le whisky, s'intéressent à la coutellerie. On peut tout à fait légitimement s'intéresser à la coutellerie. Est-ce que on peut, s'agissant par exemple de Baptiste Marchais, est-ce qu'il a montré des convictions politiques véritablement?
Alors, j'aurais un peu du mal aujourd'hui à. Parce que j'ai commencé, en fait, assez récemment à m'intéresser à ce personnage qui a émergé très récemment. Il est arrivé sur YouTube il y a 8 mois seulement. Et je crois qu'il est déjà à 150 millions de.
150 millions. Ça, ce sera après votre papier dans Mediapart.
Voilà. mais effectivement, il a acquis une notoriété très vite, effectivement, avec tout cet écosystème. Ce qu'on sait, c'est son passé. C'est qu'il était très proche de Serge Ayoub.
Alors, Serge Ayoub.
Qui est une figure de l'ultra-droite violente.
Skinhead, du
monde skinhead dans les années 80.
Voilà, donc c'est vraiment des gens qui sont dans l'action directe. Hein. C'est pas, là, on n'est pas sur la bataille culturelle. Hein. C'est des gens qui font le coup de poing et voilà, qui ont eu beaucoup d'ennuis avec la justice. Donc voilà, il vient de là. Hein,
il aime beaucoup, il apprécie beaucoup Jean-Marie Le Pen, par exemple.
Ah oui
il se revendique un peu. Sur son discours, on reconnaît évidemment plein d'éléments qui rappellent l'extrême droite. Il va dénoncer le laxisme judiciaire à tout craint, disons que la justice, le fait libère sciemment des criminels, il va plaider plus pour un état policier, il est plus sur une ligne
où les thèmes traditionnels.
Catholicisme. Oui, mais en fait, il affiche pas ses idées politiques de front comme ça, dans ses vidéos, lui, il veut plus, il passe plutôt par la promotion d'un art de vivre à la française. Et c'est vraiment, alors,
s'il l'affiche pas dans ses vidéos, comment vous le savez?
Parce qu'il l'a dit dans une interview.
Ah oui, voilà, ouais. C'est ça. De la même manière que Papacito, il y a deux discours. Absolument. Il y a un discours pour les vidéos et un discours pour le méta, en gros, quand ils font leur propre méta.
Absolument. Et puis bon, c'est vrai qu'il invite Julien Rojdi, c'est pas non plus anodin. Enfin, il participe bien sûr de cette sphère.
Oui, oui, non, mais c'est ça qu'il y soit, oui, mais après, il est compliqué de savoir ce que les gens ont personnellement dans la tête. On a entrevu Bigard dans le montage. Ce qui me fait venir une question, on établit des passerelles entre cet univers-là et l'univers anti-vax, anti-masque. Dans le contexte sanitaire, on a vu des passerelles s'établissaient ou pas du tout? Non.
Alors, si ce n'est le discours anti-système, oui. L'idée aussi que les médias nous mentent et qu'il faut effectivement créer sa propre culture à part, voilà. Après, moi, vraiment, les youtubeurs identitaires, je ne les ai pas tellement entendus sur la question du Covid, honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'ils aient eu grand-chose à dire là-dessus.
Il faut plutôt les regarder, je pense, au-delà des youtubeurs, parce que la contre-culture d'extrême droite sur Internet, certes, elle regroupe ses youtubeurs, ses influenceurs, mais ce sont aussi plein d'espaces de discussion sur Discord, sur des forums de jeux vidéo, où là, effectivement, ces idées-là vont plus se diffuser et percoler un peu plus, mais il ne me semble pas, en tout cas, de sous moi j'en ai vu, que ces influenceurs-là colportent un discours radicalement anti-vaccin.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est non seulement cette galaxie, mais les liens que cette galaxie peut établir, alors soit avec l'extrême droite institutionnelle, le RN ou autre, soit avec les médias traditionnels d'extrême droite, genre CNews. Et il était donc particulièrement intéressant d'entendre Éric Zemmour réagir à la mise en cause par la France Insoumise de la vidéo de Papacito.
J'aime beaucoup Papacito. C'est un garçon sympathique, intelligent. J'ai regardé cette vidéo. C'est une vidéo gaguesque. C'est une vidéo du deuxième degré, du troisième degré. Il se moque de lui-même, c'est de l'auto-dérision. C'est une espèce de dérision de la virilité. Faut voir ce que ça veut dire. Mais je trouve ça très intéressant parce que moi qui suis vieux, comme mon ami... Marc, on a connu ce genre de dérision, on a connu cet état d'esprit, on a connu ce deuxième degré et ce troisième degré. Mais à l'époque, c'était la gauche qui le portait. C'était le fameux esprit canal. Quand il y avait le hack sur Canal+, on se moquait des classes populaires, les déchiens. Vous ne croyez pas que c'était une incitation à la haine des classes populaires? C'était de l'esprit.
Ils ont retourné l'esprit canal?
Ah ben en tout cas, l'esprit canal, tu voulais, ils ont voulu plutôt se retourner contre lui, plutôt. Le grand projet de Papacito, donc, c'est de faire un contre-Canal+, donc de vraiment essayer d'être un émetteur d'un discours effectivement gaguesque, mais qui se destine aux jeunes, qui soit cool, qui soit drôle, qui soit un peu pop, et qui permette d'appâter comme ça un peu les jeunes en rendant en fait le discours d'extrême droite désirable. Parce qu'en fait, Canal+, évidemment, avec ce côté un peu permissif, citadin, ce que vous voulez, ça incarne un peu tout ce qu'il déteste à l'extrême droite. Hein, tout ce qui va représenter le multiculturalisme, le véganisme et ces choses-là, ils s'inscrivent vraiment en contre vis-à-vis de ce discours-là. Donc c'est plutôt un contre-Canal+ qu'ils veulent faire.
Contre, mais en fait, ils y ont été totalement nourris et ils en reprennent intégralement tous les codes. C'est vraiment des enfants de canal. Et honnêtement, on n'est pas loin du pastiche. C'est-à-dire que c'est exactement la même ironie. Il y a aussi cette idée d'un entre-soi où on se moque de l'autre. Enfin, ils ont quand même, pour moi, ils sont biberonnés à la culture canal.
Pardonnez-moi, mais.
L'humour pour faire passer les
idées.
Moi,
dans ce que je vois des vidéos actuelle de Papacito et compagnie, j'y retrouve une férocité et une authentique méchanceté que je ne discernais pas dans l'esprit canal.
Le côté transgressif, il y avait l'idée canal, quand Canal est apparu, ouais. Il y avait aussi par rapport un peu à une télé qui ronronnait, il y avait ce côté on va aller plus loin, on va faire des blagues plus trash, des trucs plus...
Oui.
Quand même, et ils sont sur cette culture de la transgression quand même. Et ça, je pense qu'ils l'ont vraiment hérité de Canal. Et leur cible aujourd'hui favorite, c'est Quotidien, qui représente à peu près...
C'est l'esprit canal d'aujourd'hui.
C'est un peu l'esprit canal d'aujourd'hui, c'est, ils disent que c'est tout ce qu'ils détestent, mais en même temps, je pense que ça reste, au fond, en grande partie leur modèle.
C'est vrai. Puisque non,
c'est très influence. Efficace. Ils ont Quotidien fait aussi des petits clips humoristiques pour se moquer des fachos. Enfin,
non, mais bien sûr, mais ils veulent que personne, Quotidien. Enfin, je veux dire, c'est quand même.
Oui. Non, mais
c'est...
Ah oui, non, mais ça, le fond du discours est totalement différent. C'est... sur la forme, je pense qu'ils en sont vraiment les héritiers. Les...
Je sais pas s'ils ont la même habileté, en tout cas, mais c'est vrai que Papacito, quand vous regardez sa vidéo où il s'acharne à coups de couteau sur un mannequin, il y a un côté un peu exutoire aussi. Je trouve qu'on a dépassé un peu la sphère de l'humour, je trouve, par moment. Enfin, en tout cas, c'est en fonction des sensibilités de chacun. Hein,
mais... moi, je trouve qu'on dépasse de beaucoup la scène de l'humour dans cet extrait-là.
Je trouve ça personnellement très ambigu et j'attends de voir la lecture que font les magistrats du parquet de cette vidéo. Parce que.
Qui ne sont pas forcément les meilleurs spécialistes de la lecture d'images,
certes, les magistrats. Mais en tout cas, la 17e chambre correctionnelle, ils connaissent bien ces types de discours et effectivement, il existe un droit à l'humour en France. Il a ses limites. On verra si là, ça a outrepassé les limites ou pas. On attend encore la décision, quoi.
D'accord. Oui, là, le côté gaguesque invoqué par Éric Zemmour me paraît pas très clair. Là, on a assisté. Pour moi, c'est des images qui sont difficiles à regarder.
Vous dites les choses très prudemment. Voilà, mais moi, je trouve que c'est des images épouvantables. C'est des images épouvantables et extrêmement violentes. Mais après, voilà, comme vous dites vous-même, ça dépend de qui les regarde, ça dépend des...
Mais c'est toute la, comment dire, c'est un peu tout le côté un peu piégeux, peut-être, pour Papacito lui-même, dans la mesure où, effectivement, vu qu'il s'abrite toujours derrière l'humour et derrière des messages un peu cachés, on se pose toujours la question de l'interprétation, en fait, de ces messages. Et autant, lui, il a fait une vidéo après coup pour expliquer que, bon, en fait, non, c'est tout ça est juste imagé, c'est juste pour s'opposer, en fait, au discours gauchiste, entre guillemets, sur le fait que les gauchistes voudraient apparemment désarmer la police, qu'il ne faudrait pas punir sévèrement les délinquants et les terroristes. Ça, c'est une clé de lecture qu'il a donnée après coup, mais il ne la donne pas au départ dans la vidéo.
Bien
Donc
sûr.
En fait, il y a vraiment toute une latitude, je pense, à interpréter cette
Alors
cette
après,
vidéo.
Va se poser la question de la parade, parce que vous parliez de justice. Bon, à supposer même que cette vidéo de Papacito soit condamnée en justice, je ne pense pas que ça aura un impact négatif considérable sur le public de Papacito. Je veux dire,
au contraire.
Sans doute au contraire.
Ben, en parade, alors nous on a chez nous un youtubeur qui s'appelle Usul, qui est
bien connu de nos abonnés,
voilà.
Oui, aussi.
Voilà, qui est, on pourrait dire, un peu le pendant du côté gauche de ces youtubeurs. Après, moi ce qui me frappe...
Et qui, à votre avis, peut constituer une parade
Il n'a sans doute pas l'écosystème que ces gens-là ont. Après, il a une énorme audience. Et là où ça marche et où je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir, c'est... Bon, il y a le côté humour. On rend l'extrême droite un peu cool, un peu marrante, un peu transgressive. Mais je pense qu'il y a une soif aussi, et ce que fait Usul et ce que certains de ces youtubeurs d'extrême droite font, c'est le côté éducation populaire. Ils arrivent, ils parlent quand même à un public qui, pour moi, enfin, il est difficile à cerner, mais enfin, on sent que c'est des gens pas forcément qui ont fait des très longues études, pour qui les médias traditionnels sont pas forcément.
Voilà, attention à ce que vous dites. Alors là, j'imagine déjà la prochaine vidéo de Papacito, Lucie Delaporte de Mediapart, son mépris envers les youtubeurs.
Je pense qu'il y a un besoin d'éducation populaire. Qui remplissent à certains égards, c'est-à-dire qu'ils ont cette culture du débunkage, on va vous expliquer, parce que les médias traditionnels sont considérés comme trop ennuyeux, parfois inaccessibles, parce qu'on ne comprend rien, parce que et eux, ils jouent ce rôle, et je pense que réellement, c'est quelque chose qui manque aussi à gauche, de faire parfois des vidéos qui soient plus accessibles, de politisation, mais qui soient un peu ce que fait Usul. Parfois, ils décryptent qu'est-ce que c'est que le racialisme.
Oui, mais en même temps, eux, ils ont un aspect. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est ce qui compte beaucoup, à mon avis, pour leur succès, c'est que visuellement, ils sont très bons. Je veux dire, visuellement, qui se mettent devant des pistolets mitrailleurs ou qui servent du sanglier ou qu'ils se mettent dans un bar à vin devant un échantillon de whisky. Visuellement, ça fonctionne.
Il y a un discours, il y a quand même, ils essayent de décrypter qu'est-ce que c'est justement Black Lives Matter, d'où ça vient. Alors, en général, ils racontent souvent il y a beaucoup de contre-vérités, mais ils font ce travail-là
Ce serait quoi l'équivalent de gauche de cette image-là, par exemple ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer?
C'est dur à imaginer parce qu'on voit qu'il n'y a pas tellement une culture de gauche politique sur Internet.
Du quinoa, du pil-pil. Non mais.
Bah, ça serait très caricatural.
Non mais ils se moquent beaucoup. Ils se moquent beaucoup des. Comment ils disent des graintiers de gauche.
Oui, c'est ça, les mangeurs de soja.
Des hommes soja. Des hommes soja.
Des hommes soja.
Ça représente tout. L'homme qui ne se nourrit que de soja, qui ne se muscle pas, qui ne fait pas de sport.
Alors, quel est l'équivalent? Qu'est-ce qu'on peut faire visuellement?
Je ne suis pas un youtubeur politique, j'aurais du mal à vous répondre.
Oui, puis je ne suis pas sûre qu'il faille répondre point par point, enfin, cet imaginaire. Après, justement, ils sont aussi dans une
forme de caricature. Justement, dans la création d'un imaginaire de droite et d'extrême droite, ils sont extrêmement forts, je trouve. Et ce qui manque, effectivement, aujourd'hui, on sait que ce qui manque, c'est un imaginaire des deux côtés du champ politique.
Bah, en tout cas, pas de ce côté-là.
Qui est en train de, effectivement, se charpenter. Ouais.
Et alors, je parlais des parades. Bon, alors, vous utilisez les armes traditionnelles du journalisme, c'est-à-dire l'enquête, vous allez voir, vous racontez, vous donnez à voir, etc. Mais j'imagine que vous le savez, vous êtes systématiquement récupéré par la bande. Et vos papiers sont disséqués par le... J'imagine que vous l'avez vu.
Ah oui, j'ai vu une vidéo de 45 minutes où c'était une lecture ligne à ligne.
Alors, on va montrer un extrait. Donc, l'émission s'appelle « Deux heures de jeu ». J'ai perdu mes fiches, moi. Enfin bref, ça parle de vous, et toute la bande est là, et le papier de Mediapart est disséqué.
Les gars, vous savez qu'on a été clashés par une journaliste de Mediapart. Mediapart, c'est le journal qui fait quand même cette... tu sais, il y a les Avengers, le côté très puissant, tu vois, pour le côté All-Star Game. Il y a la première croisade, tu sais, où il y avait des chevaliers de partout, et il y a Mediapart. Et eux, leur délire, c'est de réunir vraiment tous les fils de pute disponibles sur le territoire national. Donc c'est quand même le journal de Usul et de Élu Plenel.
Affalé autour d'une table basse, les quatre hommes se rappellent avec nostalgie leur jeu vidéo préféré. J'aimerais me refaire un jeu, Men of Valor. T'allais au Vietnam, tu faisais le ménage, ton personnage était noir, donc c'était bon, tu pouvais violer des Vietnamiennes.
C'est esclave, papa.
Oui, c'est esclave, papa.
T'as l'impression qu'on est en CE2 et que la maîtresse. Pourquoi tu dis esclave?
Quelle sacanée. Putain, le passage d'après. Bruno le Salé se met lui à regretter les jeux vidéo où tu pouvais baiser des buts, les buter et récupérer ta thune, tu vois.
Non, mais en plus, ils sont bons parce qu'ils arrivent à monétiser nos punchlines, c'est incroyable quand même.
Pour éviter de l'insulter, on va dire qu'elle est pas au chômage, histoire que les gens comprennent.
Dans la vidéo précédemment citée, un des youtubeurs offre à Papacito des gâteaux arabes. S'ensuit une longue digression entrecoupée de rires sur l'amour des allocations familiales où l'on voit où l'on voit Jasmine de l'Aladdin Disney symbolisant l'immigration maghrébine évoquer son rêve bleu en incrustant le logo de la CAF.
Mais en fait, il faudrait qu'elle lui dise, cette journaliste de Mediapart, peut-être c'est une hallucination collective, mais j'ai quand même l'impression que t'as plus de chances de croiser un Tunisien, un Algérien à la CAF qu'un Japonais. Mais si tu veux qu'elle soit rélipsée, qu'on fasse un parallèle entre la CAF et les gâteaux arabes, genre ça sort de nulle part, tu vois. C'est l'humour, nique ta mère. C'est pas une fin en soi qui est de la diversité, je veux dire, c'est pas une vertu, tu vois, je veux dire.
Bah pour eux aussi.
Pour eux, oui, c'est une vertu, mais alors ce qui est génial, c'est que nous, on n'en fait pas une vertu, il y a méga diversité dans notre camp. Parce qu'il y a aussi la diversité sociale. Eux, ce n'est que la même caste, avec que les mêmes anthropologies, que les mêmes origines, que les mêmes profils de granivores de merde.
Je veux dire, bourgeois blancs.
C'est des petits bourgeois blancs, c'est... Non, mais il faut dire les choses, tu vois. Donc en fait, si les seuls noirs qui croient, c'est leur femme de ménage, d'où ils nous donnent des leçons, en fait.
Oui.
Alors, je ne l'avais pas vu. J'en ai vu une autre, puisqu'il y en a eu beaucoup. Et que je suis très peu sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même une petite campagne de cyberharcèlement, après cette, puisqu'ils savent très bien faire ça, après cet article. Non, je note qu'ils, en première partie, rient de leur propre blague, puisque je ne fais que restituer des propos, moi, qui continuent à les faire rire. Après, il y a une attaque qui me semble plus intéressante et plus... Oui, difficile à contrer, c'est le fossé un peu de classe, c'est-à-dire qu'ils nous disent « vous êtes des bourgeois, vous êtes blancs ». Ça, je l'ai beaucoup entendu parce qu'il se trouve que plusieurs autour de la table ont des origines, je crois que Valek est albanais, enfin d'origine albanaise.
Alors Valek, c'est lequel dans l'image?
Valek, c'est celui du fond.
Celui qui est au fond, d'accord.
Tout en fond, qui est vraiment très, très, très populaire. Papacito est d'origine espagnole. Je ne sais pas, j'imagine d'origine maghrébine, mais je ne sais pas. Mais enfin, ça, c'est un fait. Il se trouve que la photo qui monte de Mediapart est très, très, très ancienne et que la rédaction, notamment parce qu'on a beaucoup réfléchi à cette question, ne ressemble plus du tout à ça. Mais je pense que la question de la classe, elle est très importante. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous disiez mépris social. Mais je pense réellement qu'on s'adresse à un public de classe populaire qui se.
C'est-à-dire eux.
Eux s'adressent, voilà, et qui est vraiment en lutte avec le système, et effectivement, on représente tout ce qu'ils détestent, c'est-à-dire les dominants, et bon, voilà, je ne vais pas...
Sur le principe même de récupérer vos articles et de s'en moquer, il y a une manière de contrer ça.
Oui, ça, je trouve ça. Alors après, nous, pour le coup, je trouve qu'on a un site web, donc on est très habitués aussi à... Moi, à chaque fois qu'on a des tombereaux de commentaires et qui sont souvent pas très sympathiques. Donc, moi, je suis quand même très habituée. On est passé quand même à une culture où le journaliste n'est plus complètement sur son piédestal. On écrit un truc et 5 minutes après, on est contré.
Et finalement, c'est bien.
Et c'est bien. Et franchement, je trouve ça bien. Enfin bon, là, je trouve pas que leur critique soit extrêmement à part ce que j'ai dit juste avant, mais... Bon, ils font que relire les papiers et ils considèrent que c'est sans objet, mais...
Oui, c'est pas très, très articulé.
C'est pas très, voilà.
Dis-je sans aucun mépris de classe, je m'empresse de le dire.
Non, mais je me rappelle même le Raptor, qui est du coup encore un autre YouTuber, il y a quelques années, il avait repris un article que j'avais créé avec une consoeur dans l'Express, où il décortiquait aussi presque mot à mot ce qui était écrit. Mon livre, la même chose, j'ai un YouTuber extrême droite qui s'appelle Jean-Marie Corda, qui est plutôt sur un tout autre créneau, mais lui, pareil, il s'amusait à décortiquer chaque phrase du livre. Ils aiment beaucoup ça, quand même, rentrer un peu dans cette critique-là, frontalement s'opposer aux journalistes. Un point intéressant que vous avez dit, c'est qu'effectivement, ils vont s'adresser plus effectivement, aux classes populaires. Le journaliste est renvoyé à ses supposées origines bourgeoises.
Supposer sociologiquement, c'est vrai.
Oui, alors sociologiquement, c'est vrai. On pourra rentrer dans ce débat. Le fait est que Papacito et d'autres youtubeurs ont dit à plusieurs occasions qui voulait s'adresser idéalement à un public de petits blancs, entre guillemets, donc trentenaires, déclassés, habitants des zones pavillonnaires, des zones rurales, du périurbain. Et c'est vraiment cette France-là d'en bas qui est braconnée aujourd'hui par ces influenceurs-là. Oui, braconnée dans le sens où ils vont vraiment chercher...
Le Chasselin qui se moque des paysans.
Ah.
Braconné.
Tout de suite,
oui.
Ça y est, ça va être sorti de son contexte, je le vois déjà venir. Mais non, mais il est vrai qu'il s'adresse quand même en priorité à cette strate-là, socialement, parce qu'évidemment, la bourgeoisie, les CSP+, ne font pas trop partie de leur public, mais c'est quand même un point que...
On n'est pas si sûr,
parce que justement, dans mon livre, je m'intéresse à des tranches de CSP+, qui sont plutôt... qui travaillent dans l'informatique, qui sont propriétaires d'appartements dans Paris, et qui me disent tout bien qu'ils pensent, par exemple, du youtubeur Le Raptor, qui vont beaucoup apprécier ses saillies contre la bien-pensance, son discours antiféministe, et tout ça. Donc, il faut bien voir que ce discours d'extrême droite, si au départ, on peut penser qu'il est plutôt circonscrit à des catégories plus populaires, il faut voir qu'il détrempe, qu'il déteint aussi sur d'autres strates.
Lucie Delaporte.
Oui, et je voulais revenir là-dessus et sur aussi ce que je disais précédemment, c'est en partie une construction sociale. C'est une construction rhétorique, pardon, pas sociale, je voulais dire sociale, le pauvre petit blanc. Je pense aux travaux de Sylvie Laurent, qui a quand même très bien montré aussi comment, notamment aux États-Unis, cette figure-là du petit blanc, du déclassé, avait été totalement instrumentalisée par les Républicains et donc en grande partie la classe dominante. Voilà. Et c'est pour ça que je pense, en réalité, ils le mettent sans cesse en avant. D'ailleurs, ils nous renvoient à ça. Vous êtes les bourgeois, nous, on est le peuple, etc., comme le fait aussi le Rassemblement national. Mais en réalité, ça plaît, Rochdy, c'est les amis de Marion Maréchal, c'est Jacques de Guibon, c'est Valeurs Actuelles. Il y a tout un au contraire, toute une sphère qui est aussi aux manettes et dans le système. Donc ce côté anti-système et on est le peuple, c'est en grande partie une construction.
Alors sur les passerelles, on a parlé des passerelles vers les médias traditionnels d'extrême droite comme CNews. Alors il y a un média qui effectivement se situe, on va dire, à l'intersection entre cet univers-là et l'univers des médias traditionnels, un autre, qui s'appelle Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles qui vient de créer un site reprenant les codes des médias, des pure players en ligne comme Brut ou Combini, site qui s'appelle VA+, et qui est effectivement un point de passage très important, qui pratique aussi l'humour comme dans cette séquence où l'animateur de VA+, en compagnie du rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, s'interroge sur le point de savoir qui est oppresseur et qui est opprimé.
Je voulais vous présenter un nouveau jeu qu'on a fait en s'inspirant de la vie de Iseult qui s'appelle Oppresse-moi si tu peux. Exemple. Faut trouver si je suis quelqu'un d'oppressé ou d'oppressé. Je suis une chanteuse qui a vendu 4000 albums, soit un village dans l'Ardèche. Mon père est blindé, changeait de voiture toutes les semaines. J'ai voyagé toute mon enfance et fait ma scolarité dans le privé. Je suis...
oppresseur.
Mais j'étais noir.
Oppressé.
Oppressé. Je suis un paysan français qui gagne 650 euros par mois. Je suis...
oppresseur.
Je suis une chanteuse à succès blanche.
Oppresseur. Oppresseuse. Pointseuse.
Mais je suis angoissé.
Oppressé. Opprimé. Ouais. Parce que phobie de la pression sociale et...
Et enfin, je suis un homme.
Oppressé. Oppressé.
Racisé.
Oppressé.
De droite.
Ah là, du coup, erreur 400. Oppresseur.
Mais gros.
Opprimé.
Bravo, Jean-Pierre.
Voilà. Alors, nous avons invité à cette émission Georges Matarante, qui est donc l'intervieweur dans cette séquence, qui a refusé notre invitation. C'est dommage parce que je pense que vous auriez eu tous les deux beaucoup de choses à lui dire et des questions à lui poser.
Oui, c'est intéressant comment VA+ en fait récupère tous les codes des youtubeurs qu'ils mettent d'ailleurs en avant, les incrustations, les montages, le côté un peu gaguesque aussi dont on a déjà parlé. C'est vraiment la reproduction à l'échelle d'un média plus traditionnel, on dira, de cette contre-culture née sur YouTube. Et ça marche très bien parce que la chaîne est toute récente et déjà ça cumule à des centaines de milliers de vues par vidéo.
Oui. Sur VA+, le rôle de VA+.
Moi, j'avais suivi, je m'étais intéressée à ce que faisait Geoffroy Lejeune au sein de Valeurs Actuelles, qui avait quand même comme obsession, et que c'était un des grands problèmes de la droite, qui était de vraiment se déringardiser. Parce qu'on sortait de la Manif pour tous, qui avait d'une certaine façon relancé un peu tous ces cercles-là, mais avec quand même une image un peu Christine Boutin, serre-tête, kilt, qui ne fonctionnait pas très bien auprès des jeunes. Et donc, ils ont eu toute une offensive comme ça. Alors, on a vu des jeunes femmes un peu à la Eugénie Bastier, anti-féminisme, et tout d'un coup se mettre des perfectos pour montrer qu'elles étaient très, très cool et pas du tout ringardes. Et ils sont exactement sur le... C'est la même tendance. Donc là, il y a
la casquette,
la boucle d'oreille.
Les bouts de chemise qui dépassent du pullover. Oui.
La barbe de 3 jours.
Les costumes qui sont naphtaline. On est au-delà de ça. On est en côté cool, branché.
La boucle d'oreille, voilà.
Exactement. Voilà, c'est pas les codes habituels. De la droite. Après, voilà, donc ils reprennent. Franchement, là, c'est vraiment très opportuniste. C'est-à-dire, il y a une contre-culture qui s'est faite sans eux, ils la ramènent.
Mais attendez, non, mais juste, vous pensez que Geoffroy Lejeune met une casquette pour la télé et qu'il n'en a pas dans la vie? C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a une volonté délibérée d'adoption des... Vous pensez que le Georges Matarant se met la boucle d'oreille juste pour ses émissions et qu'il ne l'a pas dans la vie?
Non, je pense qu'ils ont eux-mêmes dans leur... Mais d'ailleurs, tu le dis très bien dans ton livre, ils ont beaucoup réfléchi à l'apparence et pour eux, c'est essentiel. Et donc, c'est pas un déguisement.
Réfléchi à l'apparence, ça voudrait dire qu'ils se mettent la boucle d'oreille pour la télé. Ou pas?
Non, c'est compliqué
à dire sur un point particulier, oui. Mais le fait de vouloir avoir l'air cool, décontracté, ça, clairement, c'est quelque chose qu'ils font sciemment, bien sûr.
Mais en même temps, c'est aussi des jeunes ça urbains. Veut dire
se... Vous ne pensez pas qu'ils sont comme ça comme ça dans la vie?
Après, ça se cultive aussi.
Après, on peut avoir un perfecto, une boucle d'oreille et être totalement réactionnaire. Ça, c'est... Voilà. Mais c'est juste qu'ils savent que c'est des... Enfin, ils savent. Et d'ailleurs, parce qu'ils vivent dans cette société où c'est pas très sexy d'avoir un serre-tête et un kilt aujourd'hui. Et c'est pas très sexy d'être un crâne rasé avec un bomber. Ça marche plus très bien. Donc, je pense que comme ils vivent dans notre société, voilà, ils ont adopté les codes de la jeunesse d'aujourd'hui. Tout en étant très, très
L'extrême droite veut être quand même créatrice de tendances. Ils veulent être pop, ils veulent être technophiles, ils veulent être jeunes, ils veulent être un peu tout ce que vous voulez et vraiment rendre ce qu'ils mettent en avant désirable. Donc, effectivement, ça passe aussi par des codes vestimentaires, ça passe par un art de vivre, ça passe par toute une culture en ligne. Donc, c'est vraiment ça, c'est saillant. Ils veulent vraiment rentrer un peu plus dans les détails de la vie et pas que ce soit juste des idées comme ça qui planent en altitude. Mais vraiment raccrocher ça à des éléments du quotidien, les films que vous regardez, les vêtements que vous allez porter, les livres que vous allez lire. Et c'est pas pour rien, ça vient d'ailleurs, c'était déjà très saillant chez les identitaires. Un des grands inspirateurs du mouvement identitaire, c'est Philippe Vardon. Il a écrit « Éléments pour une contre-culture identitaire » où il explique ça très bien. Il faut regarder les films de Batman pour la bravoure, il faut porter le béret parce que ça renvoie un peu aux racines. Et aujourd'hui, vous avez Papacito qui vous explique qu'il faut s'alimenter plus avec de la viande, en prenant par exemple des humoristes, comme, des acteurs comme Gérard Depardieu. Ils vont vraiment créer, forger espèce d'art de vivre qui soit cohérent avec leurs idées.
Et qui est en même temps extrêmement traditionnel. Je veux dire, ils inventent pas grand-chose, en tout cas dans l'exploration.
Non, mais ils le raccrochent,
voilà.
Mais là où, moi, je trouve ça assez fascinant, c'est que là, on parle quand même d'un média, Valeurs Actuelles, c'est un média historique de la droite, qui ouvre ses portes. Alors là, un genre qui est quand même assez hybride, les vidéos de VA+ sont assez hybrides, parce que on peut assez facilement les décrypter, ça aligne les contre-vérités. Et là, on rejoint quand même l'école Steve Bannon plutôt. Et moi, je voudrais parler de toute cette influence de l'alt-right,
l'ex-conseiller de Trump.
De Trump, et qui a beaucoup théorisé ça aussi, ce combat culturel et ce combat par des médias qui font leurs propres informations, souvent au mépris de la vérité.
Ah, vous allez nous dire que ça vient des États-Unis alors. Comme de l'autre côté, on explique que le woke vient des États-Unis. Là, on va dire que VA+, voilà.
Oui, mais je veux dire, c'est sûr, hein, ils les ont beaucoup regardés. Ça, j'ai travaillé avec un chercheur là, qui termine sa thèse, qui a beaucoup étudié ça, c'est-à-dire les passerelles entre l'alt-right et ces youtubeurs, et on retrouve vraiment les mêmes références. Donc ça, c'est arrivé à VA+, via ces youtubeurs, mais c'est sûr que l'influence est très forte. Par ailleurs, Steve Bannon, on sait très bien l'influence qu'il a eue sur toute la sphère Marion Maréchal. Il a conseillé Marion Maréchal, qui est le meilleur ami de Geoffroy Lejeune, donc c'est pas très compliqué de voir les passerelles entre eux. Et on arrive à ce genre un peu hybride qui se voudrait du journalisme et où on a des vidéos où ce jeune journaliste fait du placement de produits pour Terre de France.
VA+, c'est très regardé.
Faire du placement de produits quand on est journaliste, moi, je ne savais pas que c'était possible.
VA+, c'est très regardé. De ce que vous savez, c'est très regardé dans la presse traditionnelle. À Mediapart, il y a beaucoup de gens qui regardent VA+, à Marianne.
On n'a pas vraiment fait d'enquête de sociologie sur
vous parlez autour de vous.
Oui, bien sûr, on a remarqué, puis ça perce sur les réseaux sociaux, donc ça peut devenir même une tendance sur Twitter.
Non, parce que je l'ai eu en ligne, Georges Mataran, pour l'inviter, on a discuté un peu, et j'étais intéressé par cette question des reprises, par la question de savoir s'ils étaient sensibles à leurs reprises dans la presse traditionnelle. De ce qu'il m'a dit, ils s'en foutent complètement. Ils se foutent complètement.
Ils peuvent vivre sans, en fait. Oui, ils ont leur écosystème à eux, en fait.
Qu'est-ce qu'on pourrait reprendre, par ailleurs je pense qu'ils n'ont jamais sorti une information, donc qu'est-ce qu'on pourrait reprendre? Je ferai évidemment un article sur VA+, parce que c'est un phénomène de société, et c'est justement un genre hybride en termes de journalisme. Mais oui, je pense qu'ils vivent très bien sans nous.
Ils ont quand même acquis, toute cette nébuleuse, on va dire, ils ont acquis une audience que même certains mainstream n'ont pas. Donc en vérité, cette contre-culture, elle existe par elle-même, pour elle-même pratiquement. Ils n'ont même presque pas besoin de passerelle. Après, je pense que c'est même plus les médias traditionnels de ce bord-là qui ont envie de récupérer l'audience. C'est-à-dire, c'est ce que fait VA+, mais Sud Radio aussi. Sud Radio, en invitant de manière quand même assez fréquente des youtubeurs ou juste des influenceurs politiques de ce bord-là, espère aussi que ça va se répercuter pour eux, sur eux en termes d'audience.
Alors, une autre chose que m'a répondu Georges Mataran, quand j'ai prononcé le mot extrême droite, alors il a grimpé au rideau, mais on n'est absolument pas d'extrême droite, nous sommes de droite, nous sommes la droite. Alors, j'étais assez surpris, parce que nous, on a quand même pour habitude de les qualifier d'ultra-droite ou d'extrême-droite. Donc je lui ai demandé, mais Zemmour, c'est l'extrême-droite? Pas du tout, Zemmour, c'est la droite aussi. Et Marine Le Pen, mais pas non plus, etc.
Oui, c'est un grand classique. Oui. Toi qui l'es vécu aussi, c'est vrai qu'on est habitué à ce discours. C'est-à-dire que, évidemment, personne n'est d'extrême-droite, parce que le terme extrême, en soi, les déqualifierait. Donc voilà, nous, on est quand même très habitué à ça. Il suffit de regarder les thèmes, il suffit de regarder de ce dont il parle.
Ça se définit l'extrême droite. Il y a au moins trois grandes idées qui sont d'extrême droite. C'est généralement une demande d'autoritarisme, donc un État fort et punitif. Aussi ce qu'on appelle le nativisme, c'est-à-dire qu'il faut que la population soit éthiquement homogène ou du moins se reproduise au maximum à l'identique, sans apport exogène, donc sans immigrer du Moyen-Orient ou d'Afrique. Et ensuite, qu'en sciences politiques, on va appeler le césarisme. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le leader soit plébiscité directement par le peuple, qu'il en émane directement. C'est une forme de démocratie directe, en fait.
D'accord. Ce qui correspond, en tout cas pour ce dernier point, à la constitution de la Ve République.
Oui, bien sûr, mais il faut voir les choses ensemble.
Et j'ajouterais juste, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez amusant, c'est qu'effectivement, l'extrême droite, alors ça, ils n'aiment pas du tout ce terme, mais le RN continue, nous, à batailler pour qu'on ne les qualifie pas d'extrême droite. Mais c'est que, par exemple, on a Julien Rochdy qui fait une vidéo en disant « Soyez fiers d'être facho ». C'est quoi le problème d'être facho ? Oui, je suis fasciste, ça veut dire que j'aime... Donc, bon, voilà, tout ça, il faut quand même...
Les stratégies sont diverses. En tout cas, pour terminer cette émission, ce déni sur l'appartenance à l'extrême droite m'a fait souvenir d'une vidéo que j'avais vue en ligne il y a quelques temps, une vidéo d'une chaîne satirique allemande et qui montre bien la difficulté de nommer précisément les choses et les phénomènes politiques.
Nazi.
Wie bitte? Haben Sie mich gerade als Nazi beschimpft?
Na, Sie sind doch einer.
Das ist ja eine Unverschämtheit. Nur weil ich in der NSDAP und in der SS bin, bin ich noch lange kein Nazi. Wahrscheinlich bin ich auch noch rechtsextrem, oder was?
Ja, aber was sollen Sie denn sonst sein?
Ich bin vielleicht ein besorgter Bürger, der Angst vor Überfremdung hat. Aber ich bin nicht rechts. Und ich bin erst recht kein Nazi. Hey, Sie da? Sehe ich etwa wie ein Nazi aus?
Nö, würde ich jetzt nicht sagen.
Na, sehen Sie? Nur weil jemand die Mainstream-Meinung nicht teilt, ist er gleich ein Nazi.
Aber Nazi sein ist doch längst Mainstream. Ihr Nationalsozialisten seid an der Macht.
Ach ja, ich vergaß. In Ihrer Welt sind ja alle Nazis. Der Führer ist wahrscheinlich für Sie auch ein Nazi, was?
Ja.
Jetzt reicht's aber. Führerbeleidigung. Mitkommen.
Also, das sind jetzt über...
Ja, ja, ich weiß. Nazi-Methoden.
Voilà, ça fait rire personne. Je note que ça vous fait beaucoup moins rire que les vidéos des youtubeurs qu'on a vu tout à l'heure.
Ah si, moi ça m'a fait rire en vrai. Et c'est marrant parce qu'on retrouve souvent ce discours-là, cette espèce de tendance à vouloir dépolitiser à tout prix ou ôter la radicalité du discours en prétendant « mais non, je ne suis pas d'extrême droite ». En fait, c'est une technique extrêmement habituelle dans...
Mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'elle est là particulièrement bien dénoncée et qu'elle est dénoncée sur le mode de l'humour qui est, à mon avis, un mode imparable.
Oui, je pense à celui qui a enfariné Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi, alors s'est même présenté comme plutôt de gauche. Mais après, on a quand même regardé quel était son univers, ce qu'il défendait. Et évidemment, c'est un identitaire. Voilà. Mais voilà, parfois, ils aiment aussi, et c'est une vraie... un moyen rhétorique, voilà, de rallier une frange plus large, se présenter comme venant de la gauche. Très souvent, ils rappellent « j'étais de gauche, mais finalement, j'ai compris », ou alors « je viens de la gauche voilà, ».
Et vous qui les connaissez bien, vous ne pensez pas que c'est sincère de leur part. C'est-à-dire, vous ne pensez pas que c'est des gens qui sincèrement se vivent comme soit venant de gauche, soit étant encore de gauche.
Alors déjà, c'est vrai que le clivage droite-gauche, c'est quelque chose qui, voilà, dans laquelle cette génération se reconnaît plus beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai que de toute façon, on a un monde politique assez morcelé. Et oui, et c'est pour ça que je parlais encore une fois tout à l'heure de l'idée qu'ils sont là pour défendre les classes populaires. Non, c'est important. C'est vrai qu'ils se vivent comme
défenseurs des classes populaires,
porte-parole des classes populaires. Et donc se raconter, puisque Papacito raconte aussi que sa famille c'était des républicains espagnols. Ils aiment bien aussi, parfois proches du communisme, du communisme pour certains, je ne sais plus lesquels. Voilà, rappeler qu'ils ont des origines qui sont celles-là et ça leur donne un crédit, évidemment, un poids un peu différent, Marion Maréchal.
Ils adorent mettre en avant aussi toutes les prises de guerre qui viendraient de la gauche. Je me rappelle, j'avais enquêté sur l'Action française et systématiquement, ils me disaient « Mais regardez, on a recruté très récemment beaucoup de gens d'extrême gauche qui se sont rendus compte vraiment des incohérences de leur pensée politique parce qu'ils ont fréquenté les sites de réinformation, parce qu'ils ont vu tel youtubeur. » Et ils adorent mettre ça en avant pour montrer qu'en fait, la gauche finalement est pétrie dans des contradictions et donc l'épiphanie c'est l'extrême droite en fait quelque part. C'est vraiment ça qu'ils essayent de porter comme message.
Très bien, merci à tous les deux. Mon petit doigt me dit que dimanche devrait être mis sur le site une chronique de Thibaut Prévost extrêmement intéressante sur le même sujet à laquelle je vous invite à vous reporter. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Thank you.